L'amorce. L'amorce avec Jean-Simon Buis.
5 pile au FM 93. Bon matin. Bienvenue dans l'amorce. Déjà jeudi. 17 octobre 2019. Passe vite quand on est dans une semaine de 4 jours. Il n'en reste que 2 avant le week-end. Côté météo, ça va être plus difficile aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. Là. Avertissement de vent. Des vents très forts aujourd'hui, en plus de la pluie qui tombe présentement à Québec. C'est commencé. Il y a de la pluie, il y a eu de la pluie cette nuit et ça va se poursuivre toute la journée. Pas une très, très belle journée à prévoir. De la pluie assez forte, des accumulations également. Là, on dit hauteur prévue de 20 à 30 mm. Donc, ça va être de la flotte tout le long de la journée. Et rajouter à ça des vents qui sont assez forts. D'abord, ça commence autour de 20 km/h avec des rafales à 40. Par la suite, pendant la journée, ça devrait augmenter à 40 km/h avec des rafales à 70 et même à 90 km/h près du fleuve. Fait que c'est comme la journée où vous hésitez à sortir un parapluie plus fort, on veut se protéger, mais en même temps, le vent leur vire. Fait que c'est pas très, pas tout souvent, c'est souvent pas bien plus avancé quand il pleut puis qu'il vente en même temps comme ça. Et les températures vont être aux alentours de 8 degrés. Demain vendredi, on remet ça. Ben malheureusement, c'est encore des nuages. Par contre, la pluie va être moins forte. Là, on parle de 30% de risque d'averse pour terminer la semaine, avec 9 degrés comme maximum. Samedi, retour du soleil. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Alternance de soleil et de nuages. On est en plein dans les normales de saison avec 10 degrés comme maximum. Dimanche, également 10 degrés. Alternance de soleil et de nuages. Et plus à long terme, pour le début de la semaine prochaine, c'est du soleil qui serait prévu avec des maximums aux alentours de 13 degrés. Pour le moment, ben, la température est stable. On est déjà à 8 et on devrait pas ben bouger aujourd'hui. 8 degrés à Québec. Dans l'actualité, de quoi alimenter vos discussions aujourd'hui? Campagne électorale, on va revenir encore une fois là-dessus. Ça achève. On est dans le sprint final. Dans la presse ce matin, on parle de la fin de la troisième période. Et on dit ça joue du coup, justement. Il y en a qui enlèvent leur gardien pour se retrouver à 6 joueurs sur la glace pour essayer de marquer le plus possible d'ici la fin de la campagne électorale. D'abord, un appui de taille qui a été accordé à Justin Trudeau en cette fin de campagne électorale hier. Bon, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose dans les faits? Je ne sais pas si ça influence vraiment les votes des gens. Peut-être, parce que c'est quand même quelqu'un qui a pris beaucoup de place dans l'actualité dans les dernières années, quelqu'un qui avait une forte cote de popularité. Et j'ai nommé l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, qui sur Twitter hier a tweeté son appui au premier ministre sortant du Canada, Justin Trudeau. Je vais vous lire le tweet en question. Alors, il dit « J'ai été fier de travailler avec Justin Trudeau comme président. C'est un leader efficace qui travaille très fort sur des enjeux importants comme les changements climatiques. Le monde a maintenant besoin de son leadership progressiste et j'espère que nos voisins du Nord vont le soutenir pour un autre mandat. » Signé Barack Obama. Je sais pas si Donald Trump a autant d'affection pour Justin Trudeau. Là. Les deux ont semblé dans une relation amour-haine dans les dernières années. Faut dire que Barack Obama, au fond, a travaillé seulement un an avec Justin Trudeau parce que Justin Trudeau a été élu en automne 2015. Et Barack Obama, ben son mandat se terminait en automne 2016. Donc c'est juste un an qui semble avoir suffi à établir une bromance, comme on dit, entre les deux leaders, Barack Obama et Justin Trudeau. Bon, évidemment, peut-être que un chef du Parti conservateur comme Andrew Scheer aurait bien aimé ça, lui aussi, avoir des appuis étrangers de tête comme celui de Barack Obama. Mais bon, quand on a questionné Andrew Scheer là-dessus hier, on a eu sa réaction par rapport au tweet et à l'appui de Barack Obama à l'endroit de Justin Trudeau. Et lui, ça semble pas vraiment le déranger, puis il dit qu'il y a d'autres choses à fouetter que de se soucier de l'appui des ex-dirigeants étrangers.
J'ai des millions de Canadiens qui m'appuient, ça c'est mon concentration. Je ne suis pas occupé avec les commentaires des anciens leaders des autres gouvernements, les gouvernements étrangers. Je suis concentré sur cette campagne et de gagner lundi.
Il y a Rachel qui m'écrit au 25226. Qu'est-ce qu'il a fait exactement Obama pendant son mandat? Je pense pas qu'il y ait question de bilan en tant que tel quand on a des tweets ou des appuis. C'est très symbolique. Hein? C'est vraiment une question d'image. Barack Obama a toujours une image très, très lustrée, très positive à travers la planète, ce qui fait en sorte que ça vient un peu booster les appuis de Justin Trudeau. Mais est-ce que ça va vraiment faire changer des gens d'avis? Est-ce que ça vous influence par rapport à votre vote à vous que Barack Obama ou tout autre ex-dirigeant à travers le monde donne son appui à quelqu'un? Pas certain que à l'urne, ça change quelque chose en tant que tel. Bon, à part de ça, dans la campagne électorale, hier, on n'a plus clair dans la recherche d'appui. C'était la grande séduction au Québec. Tous les chefs fédéraux se sont trouvés au Québec pour tenter de faire un dernier sprint. Vous savez que pour les chefs, le Québec, c'est peut-être la clé pour un gouvernement majoritaire ou tout simplement un gouvernement. C'est souvent au Québec qu'il y a un point de bascule ou qu'il y a des parties qui parviennent à faire des percées suffisantes pour appuyer le reste de leurs appuis à travers le Canada. Alors, tout le monde était au Québec hier et un peu comme tout au long de la campagne électorale, il y a eu des attaques qui ont été assez directes à l'endroit des adversaires. Et on a brandi des épouvantails pour essayer de faire peur aux partisans des autres partis politiques. On commence avec Justin Trudeau. Lui était de passage à Sherbrooke hier soir et il a choisi de brandir à nouveau, pas la première fois qu'il le fait, le spectre de l'ex-premier ministre Stephen Harper.
Pendant 6-7 ans, j'ai été en opposition contre M. Harper. Puis j'ai vu une équipe de gens forts du Parti libéral, du Bloc, du NPD, résister contre Stephen Harper et le regarder faire pendant qu'il coupait dans la culture, que tu faisais rien pour protéger l'environnement, quand il s'attaquait aux plus pauvres en donnant des bénéfices aux mieux nantis.
Alors, ça, c'est le spectre de Stephen Harper. Bon, évidemment, les libéraux n'ont pas le monopole de la peur dans la campagne électorale. Andrew Scheer, lui, de son côté, a brandi la menace d'une coalition entre le NPD et les libéraux.
Si Justin Trudeau demeure premier ministre avec l'aide du NPD, imaginez un instant ce que ces 100 premiers jours auront l'air. Des semaines de négociations dans les coulisses, des discussions pour savoir quels députés du NPD seront nommés au cabinet des ministres. Et des demandes sans fin de NDP pour des taxes plus élevées, uniquement pour que Justin Trudeau puisse rester au pouvoir.
Alors ça, c'est les deux principaux concurrents pour devenir premier ministre au Canada. On s'entend que le chef néo-démocrate, Jack Meeting, a pas mal moins de chances de l'être. Mais lui aussi est allé puiser dans le passé ou a amené quelque chose de symbolique dans le débat. Lui est allé rechercher le souvenir qui est peut-être cher à plusieurs Québécois, celui de Jack Layton qui avait entraîné la fameuse vague orange, en 2011.
C'est grâce à Jack. Si l'NPD occupe une telle place dans les cœurs des Québécois et Québécoises, et c'est grâce à lui, en fait, que je suis ici en politique maintenant. Alors, aujourd'hui, nous voulons s'unir cet lien et on veut aller de l'avant avec cette inspiration.
Ouais, lui était de passage au parc Jack Layton à Hudson. Donc. Mais notez qu'aucun des chefs dans leur discours respectif hier au Québec, il n'y a pas Justin Trudeau qui a dit « ben votez pour moi parce que ». Andrew Scheer n'a pas dit non plus « votez pour moi parce que » et Jack Meeting non plus. Hein. On est allé soit chercher des éléments du passé ou brandir une menace éventuelle. C'est un peu dommage qu'on fasse appel à la peur ou encore au passé sans y aller de manière concrète avec ce qu'on promet ou ce qu'on représente nous-mêmes. Le Bloc québécois, évidemment, n'est pas en reste et a dû répondre à ça parce que bon, ils se sont fait attaquer aussi le Bloc québécois. C'est un peu toujours la même rengaine. Un vote pour le Bloc québécois, c'est un vote dans le vide ou encore ça va faire en sorte que les libéraux vont passer si vous êtes conservateur ou que les conservateurs vont passer si vous êtes libéral. Alors, Yves-François Blanchette s'est prononcé un peu sur tous ces spectres, toutes ces menaces, toute cette peur qui est un peu brandie par les autres chefs des partis fédéraux. Puis il a dit, ben, nous autres, de toute façon, au Québec, la peur, on est au-delà de ça.
À la suite de l'information reçue du public, il a été localisé dans un chalet abandonné dans le secteur...
C'est pas le bon extrait sonore, c'est pas grave, ça va rien avoir pas en tout. Mais grosso modo, je vous résume ce qu'Yves-François Blanchette disait. Il disait, au Québec, on n'a pas peur, les autres chefs politiques essaient d'y aller avec ça. Mais écoutez, les retraités d'aujourd'hui, par exemple, ce sont des gens qui ont voté pour René Lévesque à l'époque, donc c'est pas des gens qui ont froid aux yeux généralement. Alors, on n'a pas l'extrait, mais c'est pas plus grave que ça. Ah, on a l'extrait, on l'écoute.
Le sentiment de peur, je pense qu'il marche plus. Et on a souvent utilisé le sentiment de peur à l'encontre de gens plus vulnérables, à l'encontre de nos retraités qui sont souvent plus vulnérables. Mais vous savez, les retraités aujourd'hui au Québec, c'est la génération qui a élu René Lévesque. C'est des gens qui ne sont plus sensibles aux arguments de la peur.
Alors voilà, c'était Yves-François Blanchet du Bloc québécois. Alors, il reste quoi? Alors, il reste jeudi, vendredi, samedi, 4 jours de campagne. Déjà les élections lundi, donc ça achève. On sent vraiment la fin du côté de la campagne électorale fédérale. Les autres éléments dans l'actualité, on va rester en économie. Vous allez entendre dans les prochaines minutes. Là. D'abord, on va y aller avec une nouvelle négative et ensuite avec une nouvelle qui peut avoir du bon pour la région de Québec. Là, tout dépendant comment vous positionnez. En tout cas, c'est une transaction importante. Mais d'abord, à la une du Journal de Québec, ce qui occupe le plus de place ce matin, c'est la fameuse pénurie de main-d'œuvre, pénurie de personnel. D'abord, on rappelle à la une qu'en un an, au Québec, il y a eu la création de 133 000 postes à temps plein. C'est beaucoup. problème, c'est qu'en contexte de pénurie de main-d'œuvre, ben on n'est pas capable nécessairement de combler ces postes-là, ou en tout cas tous les postes, particulièrement au service à la clientèle. Et là, on vous en a déjà fait part de ce genre d'affiches-là, mais dans beaucoup de commerces, beaucoup de restaurants, on retrouve des pancartes qui déplorent le manque de personnel, des pancartes qui s'excusent de la lenteur du service en disant ben soyez respectueux envers nos employés, c'est pas de leur faute, il manque de monde, donc ça risque de prendre un peu plus de temps. Vous en avez sûrement déjà vu un peu partout. D'autres pancartes qui promettent des avantages extrêmement concurrentiels à ceux qui postulent chez eux parce que, justement, ils veulent se distinguer de la compétition et tout le monde cherche des employés. Ben, c'est un peu un bilan qu'on retrouve dans le Journal de Québec ce matin. Et là, on découvre que dans certains endroits, même, il y a tellement pas d'employés qu'on est obligé de fermer pour faire le ménage. Pas compliqué, là. Il y a certains restaurants où on n'est pas capable de laver les salles de bain. On n'est pas capable de faire l'entretien normal du restaurant qu'on devrait être capable de faire avec le personnel qui est sur place. On donne l'exemple du Burger King du Plessis et qui doit d'abord aller chercher des employés du Burger King sur Bouvier et qui ouvre seulement de 11h à 17h depuis un certain temps parce qu'il manque des employés. Puis il dit normalement, Le propriétaire dit on doit être entre 6 et 9 employés, mais on le fait parfois à 3. Le dimanche, il y avait seulement moi puis une autre employée. Puis quand ça arrive, ben on ferme la salle, puis c'est juste du service à l'auto. Il dit que des fois, il doit fermer son restaurant quelques heures en après-midi pour faire le ménage. Imaginez, là, que ce soit les poubelles, les toilettes, et puis simplement s'assurer que ce soit propre. C'est vraiment quelque chose de difficile. Et là, c'est pas seulement ce restaurant-là qui est touché, c'est tous les autres restaurants. Pas besoin de vous le dire. Et là, on va chercher des gens grâce à des avantages important, par exemple, des déplacements payés. Parfois, on paye le taxi à des employés, imaginez, jusqu'à 50$ pour parvenir à aller chercher des gens qui vont se déplacer pour aller travailler dans les commerces ou encore les restaurants de restauration rapide. Et ce qu'on dit du côté de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qu'on est allé questionner, c'est que à un moment donné, il y a une limite à la capacité de payer des employeurs. C'est bien beau les avantages, c'est bien beau hausser les salaires, mais on parviendra pas nécessairement à combler ça avec de simples hausses de salaire. Il y a des limites à ce que ça peut faire. D'abord, il y a des gens qui se laisseront pas convaincre parce que ça fonctionne pas avec leur horaire, avec leur demande, même si c'est des hausses de salaire fulgurantes. Puis d'autre part, ben l'employeur est pas nécessairement capable de le payer là. Puis il y a un économiste qui dit, il y a une certaine limite. Il dit, je vais par l'absurde, mais imaginez qu'on hausse le salaire chez Tim Hortons à 30$ ou 40$ de l'heure. Bon, évidemment, ça arrivera pas. Ça va envoyer le bon. C'est pas sûr, ça va envoyer le bon signal à des travailleurs qui se seraient pas présentés autrement, parce que de toute façon, l'employeur n'aura pas la capacité de payer. Donc, on se retrouve vraiment devant tout un casse-tête en termes de main-d'œuvre. Et là, les solutions qui sont évoquées, ben c'est un peu les mêmes que d'habitude. L'immigration. Les retraités, est-ce que ça passe par la coupure des impôts pour les heures supplémentaires ou encore pour les personnes retraitées qui font retour au travail? Ce sont des solutions qui sont évoquées par les entreprises et également par le gouvernement, la CAQ qui s'est pas dit fermée à certaines mesures fiscales du genre. L'autre nouvelle économique dont je voulais vous parler, c'est celle de l'acquisition possible, probable, de locaux commerciaux pour 175 millions de dollars. Le portefeuille de First Capital Realty, qui serait présentement dans la mire de Trudel Alliance. En fait, ce serait pratiquement chose faite. Ce serait une transaction qui est en évaluation. Trudel Alliance, ce sont eux qui ont fait l'acquisition de Fleur de Lys, le centre commercial, puis qui essaient de revamper ça un petit peu depuis les derniers mois, tenter de faire de ce secteur-là, dans le coin de Vanier, un pôle d'attraction, que ce soit en divertissement, hôtellerie, commerce, alors que c'est pas nécessairement le secteur qui était le plus vivant dans les dernières années. On tente vraiment de changer l'image de ce secteur-là. Et Trudel Alliance qui s'est jamais caché de vouloir avoir un parc immobilier très, très important dans les prochaines années, voulant monter presque jusqu'à 1 milliard de valeur en termes de parc immobilier. Ben là, les propriétés qui sont dans leur mire présentement, celles de First Capital Realty, ben ce sont plusieurs centres commerciaux, encore une fois, notamment, dont les Galeries Charlebourg, Place Navillès, Place Quatre-Bourgeois, Place Seigneuriale, la Promenade Lévis, Carrefour Soumande, Carrefour Saint-David, Carrefour Saint-David-Ouest et le Carrefour Saint-David-Est. Alors, ce serait tout à coup là, un gros, gros coup pour eux autres de réussir à mettre la main là-dessus puis avoir la main mise sur plusieurs centres commerciaux dans la grande région de Québec parce que, d'abord, là, en 2018, je vous rappelle, je vais parler Fleur de Lys, c'était 60 millions pour acquérir le centre commercial Fleur de Lys. Et le First Capital Realty, bon, on serait à 175 millions de dollars. Et pour l'instant, voyez que depuis 2018, c'est 250 millions de dollars qu'on aurait mis pour prendre de l'expansion dans la région de Québec. Deviendrait donc un joueur réellement d'envergure pour ce qui est des transactions commerciales, pour ce qui est du parc immobilier à Québec. Si on est en mesure de rendre ça plus vivant, parce que vous savez que les petits centres d'achat, souvent les petits centres d'achat comme Carrefour Saint-David, tout ça, c'est pas des centres d'achat extrêmement vivants. Là, je pense à d'autres dans mon secteur qui font pas nécessairement partie de la transaction, mais où souvent t'as l'impression, tu te demandes comment les commerces font pour vivre. Ben, si on a une stratégie qui est en mesure de rendre ces commerces-là un peu plus fructueux, puis de faire en sorte que les gens qui ont pignon sur rue aient des commerces rentables, ben, c'est une bonne nouvelle pour la région de Québec, mais on sent qu'ils sont vraiment en mode acquisition pour tenter de mettre leur marque dans le parc immobilier et commercial à Québec. 5h15, courte pause, au retour, on jase avec Dan Pou.
FM 93, pour être à la fine pointe de l'information, c'est Bouchard en parle.
OK, t'es pas un terroriste. Qui es-tu pour déterminer que tu as le droit de te lever un matin et de changer et de perturber la vie de milliers de citoyens? C'est ça la question. D'où détiens-tu ce pouvoir-là? Pourquoi tu penses que tu l'as? Ces gens-là le pensent, qu'ils ont une supériorité et une autorité morale pour décider de la vie des gens. C'est ça qui m'inquiète, c'est ça qui est dangereux.
Bouchard en parle, du lundi au vendredi, dès 5h30, FM 93. Ça me parle.
Voici une histoire vraie. Harold est travailleur autonome, un super bon gars, toujours avec le sourire, qui aide tous ses amis, prêt à un, prêt à l'autre. Il finit par s'endetter jusqu'au cou et il en perd son sourire. Il raconte son histoire à sa grande amie Jacqueline qui dit quoi? Va donc rencontrer l'équipe de Jean Lelièvre Syndic autorisé en insolvabilité. Ça lui a coûté 500 $ par mois pour 60 mois et maintenant, la tempête est passée. Et le plus important, il a retrouvé son sourire. Faites comme Harold, visitez jeanlelièvresyndic.com.
N'importe qui rénove sa cuisine sait que ça va être le bordel, mais que ça vaut la peine. C'est la même chose avec le tramway. La ville va être bloquée pendant un petit 2 ans, mais qui s'en soucie? C'est pourquoi Option Subaru continue à vous offrir des modèles comme la toute nouvelle Outback 2020 complètement redessinée à partir de 32 808 $. Bien sûr, on pense aussi que tout le monde va utiliser le tramway, mais pour ceux qui auraient le malheur de ne pas être sur le trajet, on vous propose une option. Slogan.
Ta meilleure option, c'est Option Subaru!
Solaris Québec, porte et fenêtre.
Joanne, je connais des gens qui ont le vent dans les cheveux dans le salon, même quand les fenêtres sont fermées.
Bah, t'exagères pas un peu, là, Sylvain.
À peine, Joanne.
J'espère que tu dis à ces gens-là que le temps froid approche vite pis que c'est le temps de passer chez Solaris.
Ben évidemment. Je leur dis aussi que les installateurs sont certifiés Solaris. Aussi, ils achètent direct du manufacturier, donc ils ont un bien meilleur suivi. Ils économisent à l'achat.
Et ensuite, sur les coûts de chauffage.
Et voilà.
Solaris Québec, porte et fenêtre.
Au 710 rue Bouvier.
Cet automne, réservez avec Voyage Laurier du Vallon et obtenez un crédit voyage jusqu'à 100 $ par couple. Profitez de toutes nos promotions, celles de nos partenaires et payez en 6 versements. Avec Voyage Laurier du Vallon, vos vacances, bonheur inclus.
Saviez-vous que la majorité des clients en deuxième et troisième chance au crédit n'ont pas la possibilité de choisir leur véhicule ou d'en connaître le prix réel? Chez Groupe Saillant au Crédit, vous avez accès à l'inventaire de tous les véhicules neufs et d'occasion des 4 concessions du Groupe Saillant. Laurier Mazda, Sainte-Foy Toyota, Option Subaru et Sainte-Foy Hyundai. Des véhicules d'occasion inspectés, réparés, reconditionnés, certifiés et surtout au même prix, peu importe votre dossier de crédit. Parce que rebâtir votre crédit, c'est ce qu'on fait dans la vie. Groupe Saillant au Crédit.com.
La marque Griffe Cuisine.
Joanne, c'est Griffe qui a fait ta nouvelle cuisine, hein?
Mmh, oui, c'est les seuls qui ont réussi à me rassurer avec leur démarche.
OK, mais là, par quel bout on commence le projet?
Ben, c'est facile. Tu commences par aller faire le plein d'idées dans leur salle de montre. Avec les conseils de la designer, que j'ai adoré d'ailleurs, tu vas te retrouver avec le plan de la cuisine de tes rêves.
Et ensuite, le projet est livré dans les temps?
Oui, tout le temps. Alors, pour commencer, prends rendez-vous et va t'en mettre plein la vue et t'inspirer dans leur salle de montre.
Faites votre marque avec Griffe Cuisine.
Pour un temps limité, profitez du grand blitz d'automne chez BMW Ville de Québec et BMW Lévis. La BMW X1 4 roues motrices X-Drive à seulement 448 $ par mois, 2,99% d'intérêt, entretien inclus. Détails chez BMW Ville de Québec et BMW Lévis.
Ici Pierre Lavoie du Grand Défi. Joignez-vous à nous le samedi 19 octobre prochain lors de la Grande Marche de Québec. Rendez-vous dès 10h à la Fontaine de Tourny, face au Parlement pour le spectacle de Brigitte Boisjoli et pour marcher 5 km. Inscription gratuite sur enmarche.com.
L'Amorce avec Jean-Simon Buis. Lundi au vendredi, 5h, au FM 93.
5h19, bienvenue dans l'Amorce en ce jeudi 17 octobre 2019. Vous allez vous réveiller sous la pluie et sous le vent. Pas comme dans la toune de Garou Céline Dion, là, mais il y a beaucoup de vent ce matin. C'est très, très fort. D'abord, la pluie est forte. On attend 20 à 30 mm en termes de hauteur. Et pour ce qui est des vents, présentement, c'est des vents à 20 km/h avec des rafales à 40. Mais pendant la journée, ça va augmenter à 40 km/h avec des rafales à 70, voire 90 km/h pas loin du fleuve. Donc, attelez-vous, ça va être une journée un petit peu déplaisante côté météo. Maximum de 8 qui est déjà atteint, d'ailleurs. C'est la température qui va rester stable toute la journée. Demain, vendredi, maximum de 9 degrés, c'est 30% de risque d'averse qui sont attendus. Par la suite, ça va se dégager en fin de journée demain pour qu'on ait une journée assez intéressante samedi, maximum de 10 degrés avec alternance de soleil et de nuages. Dimanche, même scénario exactement avec 10 degrés également, alternance de soleil et de nuages. Et comme je vous le disais, il fait présentement 8 degrés à Québec. Salut Dan!
Salut Jean-Simon, il n'y a pas de pluie en fin de semaine donc?
Non, pas de pluie en fin de semaine.
OK, ouais, c'est la bonne nouvelle.
Ça, c'est une bonne nouvelle parce que pour les deux prochains jours, c'est un petit peu moins beau.
Et avec des rafales à 70 km/h, des petits comme toi, il n'y a pas de danger que vous partiez au vent? Là.
Non, pas si
tu sais que tu t'entraînes à la boxe et tu es en forme, là, mais
non,
il n'y a pas de danger.
Okay, non, c'est plus les parapluies. Quand tu as des chances que lui s'envole, par exemple.
Exact.
Grosse soirée ton pool hier dans la Ligue nationale?
J'ai pas fait beaucoup de points dans mon pool, mais il y avait des matchs intéressants. Et ce sur quoi je veux m'arrêter avec toi ce matin, c'est des équipes de la Ligue nationale qui performent avec de nouveaux entraîneurs. Parce que l'année dernière, quand la saison a fini, on avait beaucoup de postes vacants. On les a comblés. Entre autres, Joel Quenneville est arrivé en Floride, l'ancien des Blackhawks, puis Alain Vigneault est arrivé à Philadelphie. Dans ces deux cas-là, c'est pas des débuts de saison de rêve. Par contre, pour les Oilers d'Edmonton, qui en date d'aujourd'hui sont au premier rang du classement général, avec un dossier de 6 victoires et une seule défaite, les Oilers ont changé d'entraîneur. Ils ont emmené Dave Tippett. Et sérieusement, là, les Oilers, ça fait 3-4 ans qu'on se dit, ben là, ils vont-tu gagner à un moment donné? Ils ont le meilleur joueur de la Ligue. Connor McDavid, hier, a amassé 5 points dans la victoire de son équipe, 6-3 sur les Flyers. Et quand il a embrassé en première, si tu me prêtes l'expression, ça va assez bien. Il est capable de patiner très, très vite, puis il n'y a à peu près personne qui est capable de le rattraper. Donc, les Oilers, nouveau coach, rendement impressionnant. Les Sabres de Buffalo ont perdu hier à Anaheim, mais dans ce cas-ci, c'était vraiment un duel de deux équipes surprenantes avec de nouveaux entraîneurs. Ralph Kruger, qui est arrivé à Buffalo, et Dallas Eakins, qui est arrivé à Anaheim. Dans les trois cas, Tippett à Edmonton, Kruger à Buffalo et Eakins à Anaheim, Jean-Simon, ce sont tous des entraîneurs qui avaient déjà dirigé dans la Ligue nationale. Donc, c'est probablement que ça va influencer les directeurs gérants dans les prochaines années. Puis là, je t'ai parlé de Vigneault et Quenneville au début. Ouais. Ça aussi, c'était des coachs qui avaient déjà dirigé ailleurs. Donc, ça se peut que ça soit plus long avant qu'on donne un essai à un gars qui arrive de la Ligue américaine, comme Joël Bouchard, ou comme un autre, comme Benoît Groulx, qui est dans la Ligue américaine, dans l'organisation du Lightning, parce que les gars qui avaient déjà une première chance, ben ça va assez bien dans l'ensemble avec leurs nouvelles équipes. Les Ducks et les Sabres, hier, c'est les Ducks qui ont gagné, mais dans les deux cas, c'est des nouvelles philosophies. Là, la prochaine question que j'ai pour toi, c'est combien de temps ça va durer? Parce qu'il y a à peu près 6, 7, 8 matchs pour chacune des équipes. Là, c'est beau. Parfait, on part. Hey, nouveau coach, ça va bien. Là, dans deux semaines, quand le gars, il te faisait jouer 18 minutes, puis il te fait jouer 14, là, tu l'aimes un peu moins. Puis là, tu vas moins souvent sur l'avantage numérique. Fait que tu dis, ouais, le coach. Là, tu appelles ton agent. Tu dis, ouais, le coach, il est même pas pantoute. Là. On fait quoi avec ça? Là, tu sais, il y a des situations où c'est pas tout le monde qui est heureux.
T'es sûr que la chimie fonctionne.
Exact.
Un peu plus longtemps.
Exact.
Donc, t'as lune de miel pour certains.
C'est ça. T'as très bien résumé. La chimie, au bout de 6 matchs, c'est pas la bonne expression. Au bout de 25, là, on peut observer une tendance dans une saison qui a 82 matchs. Et très bonne nouvelle pour les amateurs de baseball de Québec, parce qu'il y a eu fusion de deux ligues de baseball indépendantes hier. C'est la Ligue Frontier et la Ligue Can-Am qui ont fusionné. On se retrouve avec le nom de la Ligue Frontier, qui a 14 équipes maintenant. Des équipes de petits bleds des États-Unis. Là. Je te nommerais les villes, tu me dirais pas, ah ouais, c'est cool, j'ai assez hâte d'aller là en vacances.
On va pas jouer à Chicago.
Avec ma blonde. Non, c'est ça. Ouais. C'est des petites villes, mais ça va être intéressant pour les gens de Québec parce que les gens de Québec ont adhéré au plan des capitales depuis une vingtaine d'années. Puis à un moment donné, c'était plate d'aller voir New Jersey puis Sussex. Là, ça va être le fun de voir des nouvelles équipes. Même si on connaîtra pas plus les joueurs, ça va être le fun de voir des équipes différentes au Stade Canac.
Calibre semblable?
Calibre semblable, oui, je dirais ça. Ça commence le 14 mai. Les Capitales vont jouer plus de matchs sur la route au début parce qu'à Québec, il va faire moins chaud. Puis ils vont faire plus de matchs à domicile à la fin du calendrier, au mois d'août puis au début septembre.
Merci, Dan.
Parfait.
À tout de suite. Un petit tour du côté de la Société québécoise du cannabis, parce qu'aujourd'hui, on célèbre le premier anniversaire de la légalisation du cannabis au Québec. Alors, pour ceux qui en fument, grand bien vous fasse. Mais il va y avoir des nouveautés dans les prochains mois concernant certains produits qui vont être offerts à la SQDC. Vous savez que ailleurs au Canada, les produits comestibles sont disponibles à la vente libre, ou en tout cas à la vente contrôlée, la vente légale, que ce soit muffins, brownies et autres. Là. Au Québec, on est très, très chatouilleux et très, très tiède à l'idée de vendre ça. Par contre, on est allé parler du côté du Journal de Québec au PDG de la Société québécoise du cannabis, Jean-François Bergeron, qui dit qu'au Québec, à partir du mois de décembre, on va voir arriver des produits comme des eaux gazeuses et du thé. Là, eau gazeuse, là, pensez pas à du Pepsi ou du Sprite, là. C'est pas ça. C'est vraiment, par exemple, l'espèce d'eau Perrier, mais avec de l'extrait de THC dedans. Parce qu'encore une fois, on veut s'assurer que ce soit pas attrayant pour les enfants. Même chose pour le thé. Ce sera pas du Nesté, là, thé glacé. Ce serait plus ce qu'on appelle du thé standard, le thé pour adultes avec du THC ou du CBD à l'intérieur. Et on parle également, possiblement, de bière sans alcool à base de malt, là, mais pas de combinaison entre alcool et THC. Pour ce qui est des jujubes, là, s'il y en a qui attendent avec de l'impatience, jujubes et autres, là, c'est pas pour tout de suite. On craint encore, on est encore très, très frileux à la SQDC à l'idée de vendre ces produits-là qu'on considère comme trop attrayants pour les jeunes et les enfants. Il est 5h26. Merci d'avoir été avec moi dans l'amorce. Demain matin, 5h, on se rejase et d'ici là, dans quelques minutes, c'est Bouchard en parle qui s'installe. Ciao!
Les meilleurs moments sont disponibles maintenant sur fm93.com. Bouchard en parle commence après cette courte pause.